débats, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
13 nations qualifiées à l'heure actuelle pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dont l'équipe de France qui n'en finit plus de ne pas perdre. Retour sur les performances internationales de ces derniers jours et bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport.
Hé, hey, Toshiba, là-bas, oh, tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, le connard?
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Tu sais combien je te paye, là, pour jouer avec tes pieds, connard?
Dans l'équipe aujourd'hui, Saïd Benchek, Julien Mathieu et Julie. Salut.
Salut à tous.
Salut à toutes et tous.
Gilles, bonsoir.
L'équipe de France n'a plus perdu de match officiel depuis plus d'un an. Mieux, elle joue bien au football. En tout cas, c'est le premier constat que moi je ferais au sortir de cette dernière trêve internationale. On rappelle les victoires contre le Kazakhstan 8-0, contre la Finlande 2-0. Et on était très frustrés après cet euro. Est-ce que ça y est, là, maintenant, vous vous êtes remis à y croire, Samy?
La question, c'est à croire à quoi?
La victoire en Coupe du Monde.
Quand on regarde sur les différentes zones éliminatoires, on peut croire que oui, l'équipe de France fait partie du gratin des équipes mondiales. Elle a enchaîné un trophée, elle enchaîne de très bonnes prestations. Son duo d'attaque, on attendait un trio d'attaque, finalement, on voit plus un duo d'attaque ressortir. C'est deux joueurs qui marchent sur l'eau, que ce soit en club ou en sélection, tant mieux. Ça, pour la Coupe du Monde, c'est encore loin, il reste une année. On ne connaît pas les adversaires de l'équipe de France, mais en tout cas, ce que montre cette équipe, c'est encourageant pour la suite. Si on rentre dans les détails de ces derniers matchs, il y a eu des changements de système, il y a une grosse remise en question, il y a une baisse significative du niveau après l'Euro et la désillusion face à la Suisse. On n'est pas à l'abri de désillusions encore, mais en tout cas, là, on tient le bon bout. C'est même un peu surprenant, tu vois. Je préfère quand l'équipe de France ça me galère à se qualifier, tu vois.
Oui, c'est vrai. Dans le passé, ça s'est souvent passé comme ça. L'équipe de France avait du mal à se qualifier ou du mal à nous impressionner en poule. Et puis derrière, ça gagne. En général, ça se passe comme ça quand on gagne. Par contre, oui, c'est ça, en fait. On a le droit de dire quand même que Deschamps a peut-être mal géré son groupe, notamment avec l'arrivée tardive, pour moi, de Karim Benzema avant l'Euro. Mais là, on voit clairement, voilà, il s'est remis en question. Donc, et on voit que ça marche, en plus. Quand tu affrontes des équipes comme le Kazakhstan, tout le monde ne gagne pas 8-0, en fait. C'est vrai que c'est un adversaire plutôt simple, on l'a vu, hein, la ligne défensive. Je pense que c'était même pas une équipe de Ligue 1 française.
Et puis, c'était pas l'équipe A du Kazakhstan non plus. Hein.
Voilà, si tu veux. Mais voilà, il y a eu des beaux buts. Et puis voilà, c'est une belle claque comme ça, c'est important.
Ouais, bah alors, enfin, moi, je pense que vraiment, le tournant de cette équipe de France, et il fallait un sursaut, un réveil après cet euro raté, on l'a longuement commenté dans cette émission. Ce qui est surprenant, c'est finalement Deschamps qui se réinvente, qui change le système, qui met toujours ses cadres maintenant de devant, qui sont Mbappé, Benzema et Griezmann. Il a encore dit récemment, n'enterrons pas Griezmann, surtout pas, il sera toujours là.
Je compte Antoine. Sur lui, ça c'est sûr.
Mais là, donc, ouais, on est passé sur un système à 3-5-2, avec encore une interrogation sur le piston droit, parce que bon, Pavard, on a vu que ce soit piston droit, défense centrale, arrière droit, ça va pas, et que Dubois son remplaçant, que ce soit piston droit, arrière-droit, ça va pas. Et finalement, il n'y a qu'avec Coman et le carton 8-0. Je pense que la titularisation de Coman n'y est pas étrangère. Là, on a vu une équipe de France, franchement, qui a été d'une précision chirurgicale devant les buts, avec séquences de jeu intéressantes. Bon, l'adversaire laissait franchement à désirer. Mais moi, c'est ça, limite, qui me surprend. C'est qu'on est à un an de la Coupe du Monde et on sent déjà qu'il y a un engouement. Parce que l'équipe de France gagne, parce que l'équipe de France joue bien. Et d'ailleurs, enfin, ça se voit avec les audiences à la télé. Hein. Dernier match encore contre la Finlande. Match franchement pas très alléchant. En termes d'affiches, bah, ça fait plus de 6 millions. Donc, bah, il y a quand même des motifs de satisfaction. Et alors, enfin, je pense que là, juste par rapport à cette dernière trêve internationale, ce qui me surprend le plus, c'est vraiment le sérieux de cette équipe de France, parce qu'on est sur un match sans enjeu contre la Finlande, à quelques jours de la reprise en championnat, à une semaine des matchs de Ligue des Champions. Même si on a eu une première mi-temps assez décevante contre la Finlande, bah, les joueurs se sont remobilisés et ils ont joué vraiment avec sérieux cette deuxième mi-temps pour aller gagner à Helsinki.
Ils ont la rage. Faut se rappeler que ce qui nous amène à la finale en 2018, c'est la défaite en 2016. Et je pense que là, ça va être la même chose pour 2022. J'espère avec le même trophée à la fin.
Ouais, mais après 2016, le chemin était quand même un peu long hein, pour aller jusqu'en 2018. Hein. Franchement, l'équipe de France, elle joue mal entre 2016 et 2018. Elle se construit même en direct, de manière improvisée, durant la compétition, la Coupe du Monde 2018. Et bah, voilà, on n'a pas non plus hyper bien joué durant la Coupe du Monde. Hein. Les matchs ont été spectaculaires, ont marqué des buts. Mais c'était surtout grâce à des exploits individuels d'Mbappé, de Pogba.
Bah après, on était infranchissable, hein. À partir du milieu, on était infranchissable. Mais c'est vrai
Ouais.
qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a une belle ossature, on a nos cadres, et c'est ça qui fera toute la différence, je pense, à la prochaine Coupe du Monde.
Alors, qu'est-ce qui a encore amélioré là, selon vous, dans cette équipe? Bon, quand les joueurs sont au top de leur forme, on le voit, Mbappé, enfin, son but, il est incroyable, hein. Son accélération là, partant au milieu de terrain, frappe enroulée du pied droit à la Thierry Henry, mais frappe plus puissante. Et en plus, enfin, ça n'a pas été assez souligné selon moi, mais le terrain était glissant. Donc la frappe qu'il met, franchement, c'est un geste technique compliqué. Enfin, c'est un super but, Samy.
Eh ben écoute, faut pas être pessimiste, mais la Coupe du Monde c'est dans un an. Dans un an, les saisons, elles vont s'arrêter au mois de novembre. D'ici le mois de novembre, on sait ce qui se passe. Hein. Si on regarde cette année, t'as des joueurs blessés. Le changement climatique, etc., fait que automatiquement, voilà, ça, t'as des risques de blessures, des risques de maladies, des trucs comme ça. Donc, ce qui peut arriver de pire à l'équipe de France, c'est des joueurs blessés. Là, Pogba n'est pas là. Qu'est-ce qu'il en sera dans un an, à la même période? Par ailleurs, t'es jamais à l'abri d'un n'importe quoi de Didier Deschamps. Hein, je rappelle que là, on dirait qu'il
C'est-à-dire.
s'est réinventé. La première fois qu'il se réinvente depuis 2014, en mettant trois défenseurs. Maintenant, c'est ça le système de l'équipe de France. Les trois défenseurs, excusez-moi, mais là, pour l'instant, la défense, elle n'est pas imperméable. Loin de là. La défense d'équipe de France, c'est pas l'assurance tout risque. Quand tu vois des.
Koundé, c'est quand même une bonne trouvaille. Hein. Koundé en arrière droit, là, comme ça, positionné côté droit dans une défense à 3. Franchement, j'ai
Ouais,
trouvé
c'est
impressionnant.
impressionnant.
Enfin,
Bon, je sais pas.
rassurant en tout cas.
Oui, je
Rassurant
pense
parce
qu'impressionnant, le
que.
mot est un peu fort.
Non, mais je veux dire,
Non, mais
défensivement, il était là. Et puis, c'est quelqu'un qui porte la balle, Koundé. Il sait monter avec le ballon, il sait faire des passes.
Ouais,
Et j'ai
mais
trouvé
son
ses
rôle dans une
ouvertures
défense à
intéressantes.
3, c'est pas de monter avec le ballon. T'as un mec à droite, un peu plus haut, qui est un ailier, qui devrait faire ce rôle, qui jouait ce rôle-là. Et c'est qui que tu vas mettre? Coman? Il n'y a aucune certitude. Pavard, il est pas bon. Coman,
Oui,
on ne
mais.
sait pas s'il sera là ou pas. On sait, et déjà, on sait, pour moi, il ne fait pas les efforts défensifs.
Qui ça,
Ensuite,
Coman?
ah oui. Ensuite, au milieu. Il est quoi? Quel est Rabiot? Ok, si Kanté, Pogba se blesse, tu mets qui? Griezmann, son état de forme dans un an, il sera comment?
Je
Franchement, il
suis
y a trop
pas d'accord
d'incertitudes.
avec toi pour plusieurs raisons. Déjà, là, on parle par rapport à aujourd'hui. Bien sûr que dans un an, ce sera différent, mais on verra comment ce sera. Mais là, on peut pas se projeter comme ça. De ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, on peut déjà être rassuré. Ensuite, Deschamps, il joue pas avec trois défenseurs centraux. C'est pas vrai en fait. Il joue avec quatre, voire cinq défenseurs centraux. Parce que quand t'as pas la balle, ou même d'ailleurs quand t'as la balle, ça peut coulisser. C'est-à-dire que le Hernandez qui est le plus à gauche, le latéral, peut revenir en défense centrale. Et c'est la même chose pour ceux qui sont positionnés en 6, par exemple, donc que ce soit Kanté ou n'importe qui, reviennent également en défense centrale. Donc en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que Deschamps, à mon avis, adopte ce système pour pouvoir laisser plus de place à ses attaquants et plus de liberté, c'est qu'il veut se rassurer en mettant un maximum de mecs à l'arrière. Donc pour moi, en fait, peu importe qui est au centre, évidemment, il faut les meilleurs, mais on ne sera jamais que à 3. Il y en aura toujours un quatrième, voire même un cinquième quand on n'a pas la balle.
Ouais, non, mais de toute façon, faut pas se réjouir trop vite, je pense, parce que le Didier Deschamps, on le connaît quand même. Quand tout le monde est là, Écoute, sur des matchs sérieux, il est capable de me sortir un Pavard côté droit. Enfin, si tu es piston droit, il est capable de sortir un Kimpembe défense centrale, Lucas Hernandez. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le joueur qui doit être positionné dans la défense à 3 côté gauche, c'est Lucas Hernandez. Et laissons-le faire la fête avec son frère Théo Hernandez, qui, pour le coup, là, ça a été la révélation de ce dernier trimestre pour l'équipe de France. On a trouvé un latéral gauche ou un piston gauche, Théo Hernandez. Ouais, Julie?
Bah, moi, c'est pour ça que je vous trouve sévère depuis tout à l'heure, parce que sur les deux derniers matchs, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient été, enfin, que la France avait été solide, bon, en attaque, évidemment, et j'y reviendrai après, mais même en défense, effectivement, avec cette révélation et ces frères Hernandez qui, pour moi, ont été assez solides. Coman, il a super bien trouvé les attaquants sur le côté droit, et j'ai trouvé qu'il faisait bien le lien entre la défense et l'attaque, et qu'il a bien servi Mbappé et Benzema. Et ensuite, cette attaque, elle a été phénoménale sur les deux matchs. Enfin, on sent une certaine humilité, je trouve, de la part de Karim Benzema. Encore une fois, on avait parlé et salué sa maturité durant la Coupe du Monde, durant les quelques matchs de préparation avant. Là, il n'a pas du tout déçu depuis la rentrée, depuis septembre. En interview aussi, on sent qu'il est beaucoup moins arrogant que ce qu'il a pu être. On se rappelle d'une interview quand il était à Lyon où il avait dit moi, je ne suis pas le championnat français. Bon, voilà, on n'a plus ce genre de Karim Benzema aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que c'est une très belle équipe et effectivement, c'est encore long. C'est dans un an. En plus, ça va être expérimental parce que c'est une Coupe du Monde qui a lieu en hiver. On sait que les conditions climatiques au Qatar sont pas forcément bonnes. Jouer sous la clim, ça va sûrement fatiguer les organismes. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé une super équipe sur les deux matchs, généreuse. Quand il donne justement le penalty à Griezmann, pardon,
Griezmann.
en fin de match, parce que justement il n'a pas marqué et qu'il en met forme, et que Mbappé lui dit allez, vas-y, tire-le ton penalty et participe à la fête. Moi, je trouve que c'est aussi signe d'une équipe collective qui sait que les individualités doivent se mettre au service
Ouais.
de l'équipe et de l'ambition, quoi. Donc,
Après, Julie, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est quand même plus facile de donner le pénalty à Griezmann quand on a mis 4. Est-ce que ce sera
Oui,
la
mais
même
bien sûr.
chose, tu
Non,
vois?
mais évidemment, mais ça reste que si on le fait dans ces moments-là déjà, on bâtit quelque chose de solide. Après, évidemment, dans les matchs difficiles, quand il faudra vraiment ne pas se manquer sur le penalty, c'est peut-être pas Griezmann qu'il faudra. Enfin, c'est peut-être pas à Griezmann qu'il faudra le donner. Mais en soi, moi, j'ai trouvé que au moins justement, ils ont profité de ce match contre le Kazakhstan pour se dire bon bah justement, et dont les copains qui sont un peu en méforme. Ils s'en souviendront pour le jour J. En tout cas, c'est
Ouais,
des
c'est
bons
clair.
signaux. Après, évidemment, qu'il peut toujours se passer plein de choses, des blessés, des remplaçants. Mais force est de constater que Benzema, clairement, est arrivé trop tard dans la sélection au moment de la Coupe du Monde. Ça, on l'a dit, on l'a redit, et je pense qu'on peut encore le voir. Il rentre à la 56e minute, il marque à la 65e. Contre la Finlande, la France n'était pas hyper au top. Et là, il rentre, il ouvre le jeu et derrière, Mbappé nous marque son super but à la Thierry Henry. Donc, encore une fois, Karim Benzema montre que c'est un joueur clé et je trouve qu'il est à la hauteur de ce qu'on lui demande, quoi.
Mais Julie, tu ne penses pas que sur le plan offensif, quand même, il y a encore des zones sur le terrain où il est possible de faire mieux. Enfin, je pense clairement à Griezmann, où son rôle d'attaquant n'existe plus, en tout cas en équipe de France. Il est là, ok, il fait des efforts sur le plan défensif, il est intéressant, ça je ne le nie pas. Mais après, il y a quand même beaucoup de déchets dans son jeu lorsqu'il distribue le ballon. Moi, j'ai des noms qui, voilà, sur le plan offensif, à mon avis, dans cette position-là de 9,5, 10, voire parfois numéro 8 sur le terrain, moi, j'ai des noms de milieux polyvalents qui seraient plus utiles aujourd'hui à l'équipe de France. Hein. Je pense à Nkunku, clairement,
Non.
qui n'est toujours pas sélectionné. Nkunku, bah, écoute, Nkunku, c'est le joueur le plus régulier de Leipzig. Cette saison déjà, et puis les saisons dernières étaient quand même intéressantes. Il a un
Ah,
bagage important, il a une expérience, et
encore une
puis moi,
fois.
dans le jeu, je trouve de plus en plus intéressant.
Encore une fois, ça dépendra de l'état de forme. Parce que Nkunku, là, en ce moment, c'est Neymar. Neymar à son top. Maintenant, Nkunku,
Ouais.
dans un an, qu'est-ce que ça sera? Est-ce qu'il va changer de club, ceci, cela, tu vois? Non, mais les gars, Griezmann a du mal en ce moment. Sur le plan offensif, on est bien d'accord que c'est sur le plan offensif. Et il a du mal en ce moment parce qu'on lui a mis Benzema dans les pattes, ce qui est une très bonne chose. Et il lui faut encore un peu de temps, mais Nkoukou...
Ah, mais le problème, c'est que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Benzema est plus un 9,5 qu'un 9. Le fait qu'il soit là, qu'il ait Mbappé, qu'il prenne la profondeur, bah, ça, ouais, ça va le bonifier, ça va le mettre en plus en valeur, Benzema. Mais le problème, c'est que Griezmann, c'est quoi maintenant? Parce que Griezmann, c'était le 9,5 de Giroud. Donc maintenant, Griezmann, il fait quoi? Il sait pas quoi faire. Et le problème aussi, c'est qui se pose, c'est que son niveau ne fait que baisser depuis qu'il avait rejoint le Barça. Là, il est passé à l'Atlético de Madrid. On verra d'ici les prochains mois ce qui va se passer. Mais pour l'instant, tu vas tomber contre des équipes qui vont jouer, soit des équipes européennes avec des densités physiques assez importantes, soit des équipes plutôt sud-américaines, plus techniques et plus rapides sur les côtés. Hein. Quand je revois le Brésil ou l'Argentine, ça commence à reprendre du niveau sérieux. Le Brésil peut-être est plus en avance que l'Argentine, mais ça va être compliqué. Tu ne peux pas te permettre de laisser un seul joueur qui soit ton maillon faible.
Je ne sais pas vraiment si on peut parler de Griezmann comme d'un maillon faible. En fait, ça me gêne parce que on part quand même du mec qui nous a emmené jusqu'en finale en 2016. Bien sûr, il n'est pas tout seul, c'est un collectif. Mais bon, on sait que voilà, on est sous l'ère Griezmann encore. Donc, je vois mal comment on peut dire qu'on peut le mettre sur le banc, en fait.
Bah écoute, c'est aussi la force de l'équipe de France d'avoir un réservoir de joueurs intéressants et qui peut être capable de combler bien des lacunes. Et pour moi, aujourd'hui, bah, là, au milieu de terrain, lorsqu'il faut porter le ballon, lorsqu'il faut distribuer le jeu, pour moi, Griezmann, il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets. Donc, bah ouais, bah écoute... aucune légende n'est irremplaçable, hein, que ce soit en équipe de France, dans les clubs. Mais écoute, de toute façon, on va leur laisser du temps, là, l'équipe de France. On ne connaît pas du tout leur prochain adversaire. On aura des matchs au mois de mars, mais on aura surtout dans les prochains mois des barrages un peu partout, en Europe, en Afrique, pour les qualifications donc, de la Coupe du Monde, puisque comme on le disait, sur 32 équipes, qualifié à la Coupe du Monde. Pour l'instant, on n'en a que 13. Et il y a eu des surprises bonnes et mauvaises en Europe et en Afrique. En tout cas, là, on va se focaliser sur ces deux continents. Sur les qualifs en Afrique, Julie, c'est quoi ton bilan international? Est-ce que tu as un fait marquant dont tu veux nous faire part lors de ces éliminatoires?
Alors, un fait marquant, je ne sais pas. Après, moi, par rapport aux équipes, j'ai envie de parler du Sénégal. Pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas étonnés que je parle de ce pays-là. Mais voilà, moi, je suis assez contente de voir qu'ils sont qualifiés pour les barrages de mars. Après, on en parlait tout à l'heure avec le calendrier, justement, que les équipes internationales, notamment africaines, ont avec la CAN en janvier et les barrages en mars. Je pense que ça va faire beaucoup. Mais voilà, en tout cas, ils ont vraiment montré des qualités offensives avec, sur les derniers matchs depuis septembre, pas mal de joueurs qui ont marqué. On voit bien qu'il n'y a pas... une seule personne qui marque, et notamment Sadio Mané. On sent aussi que Maël Assar, par exemple, c'est lui qui a marqué les deux buts contre le Congo. Donc voilà, moi je suis assez contente de voir cette nation commencer à briller tout doucement. Ils sont 20e au classement FIFA. Ils ont un entraîneur emblématique qui a été à la génération de 2002. Voilà, ils ont quand même deux gros centres de formation, Génération Foot qui est en partenariat avec Metz depuis de nombreuses années et qui a d'ailleurs révélé Sadio Mané notamment, et l'Institut Diambar maintenant qui depuis 2019 a signé avec Marseille. Donc je trouve qu'en tout cas cette équipe mérite d'être à cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voilà.
Ouais, il ne faut pas qu'il se blesse par contre, Mané là.
Non, il ne faut pas qu'il se blesse, effectivement. Mais du coup, ne lui portons pas mauvais œil en le disant.
Parce que il aura une saison surchargée avec déjà l'intensité de Liverpool. Mmh. La CAN qui a lieu, c'est en février, je crois, non?
Ouais, janvier, ouais.
Janvier-février, ouais. Mmh. Et donc, du coup, la Coupe du Monde en fin d'année, ça va faire beaucoup.
Enfin, la CAN, ce n'est pas encore gagné, justement. Il y a encore un quiproquo. et une possible annulation de la Coupe d'Afrique. Et donc, ce n'est pas encore joué, hein, moi, je vous le dis.
Ouais. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a des joueurs, notamment Liverpool, qui vont être privés de leurs plus grands joueurs à cause de la CAN, des barrages. Enfin, ça fait beaucoup quoi, dans le calendrier. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de tout ce qu'ils infligent aux joueurs, mais on ne va pas les plaindre. Ils gagnent bien leur vie, mais quand même, il faut qu'ils soient en forme, quoi.
Mais Julie, si on devait comparer ce Sénégal, donc visage 2022, par rapport au Sénégal 2002, je ne sais pas quelle est l'équipe qui t'impressionne le plus sur le papier, parce que là, c'est vrai que cette génération, quand même, entre Sadio Mané, Idrissa Gueye, qui est l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de la saison, Edouard Mendy, qui ressort d'une saison incroyable avec Chelsea. Il y a quand même des cadres, des joueurs très intéressants dans cette équipe du Sénégal. Il y a 20 ans, elle était portée par Eladji Diouf.
Eladji Diouf.
Eladji Diouf, ouais. Papa Bouba Diop, notamment.
Son âme, d'ailleurs.
Ouais. Mais alors, si on devait comparer les deux équipes sur le papier, laquelle t'impressionnerait le plus?
Je ne sais pas, c'est comme si on devait comparer la génération 98 avec celle de 2018, en fait. Est-ce qu'elles sont comparables? Je ne sais pas. En tout cas, en 2002, on avait les meilleurs à leur poste. Ils étaient tous très bons en club aussi. Évidemment, Eladji Diouf, c'était un très, très bon joueur à l'époque.
Et il jouait à Liverpool.
Et voilà. Et du coup, c'est peut-être révélateur aussi.
Juste avant de laisser parler Samy, si tu regardes un peu la compo du Sénégal, les joueurs que tu viens de citer, Gilles, sont quand même dans des grands clubs. Certains ont gagné la Ligue des Champions. D'autres sont arrivés en finale. Donc, c'est quand même... Si on regarde juste strictement ça, c'est quand même plus fort qu'en 2002.
Je pense qu'on a des joueurs plus impressionnants en termes d'équipes, dans les équipes dans lesquelles elles sont aussi.
Voilà, c'est ça.
Ouais, mais Kalilou Fadiga, en 2002, c'était Ligue des Champions avec Auxerre. Connais-vous, hein. Samy, vas-y.
Juste pour le Sénégal, n'oublions pas que lors de la dernière Coupe du Monde, ils se font éliminer sur le fair play. Hein. Sinon, ils passent la phase de poule. Ce qui est un truc quand même. Il faut quand même. Au nombre de points, ils étaient à égalité avec les Japonais. Donc c'est quand même à souligner. Maintenant, sur le Sénégal aussi, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que c'est une équipe, un pays qui a un lourd passé en termes de entre guillemets malédiction. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Sénégal n'est pas encore qualifié à la Coupe du Monde. Et là, c'est tout le problème de l'Afrique, où il reste encore 10 nations et où ça va s'auto-neutraliser ou pas pour les matchs de barrage en aller-retour au mois de mars. Donc le Sénégal peut très bien tomber contre le Cameroun. Le Cameroun peut très bien être la bête noire du Sénégal. Et justement, là, on peut faire le rapprochement avec 2002, puisque j'ai en tête le Sénégal qui perd en finale de la CAN. Donc, voilà. Le Sénégal a une très bonne équipe, mais avec le. Et ça, c'est le scandale de l'Afrique qui a que 5 places.
Ouais, ça, c'est fou.
Ça va être compliqué. Même s'ils sont tête de série, ils peuvent très bien tomber contre le Cameroun. Ils peuvent très bien se faire piéger par le Mali. J'ai oublié encore les autres possibles adversaires. Mais il y a deux grosses équipes qui peuvent leur porter préjudice. Et l'Égypte. Alors imaginons, hein, et on peut le voir arriver en plus, hein, gros comme une maison, le duel Mané-Salah. Tu vois. Et là, c'est pas facile.
Et puis juste pour prolonger ce que tu dis, Samy, ce qui est fou, c'est de se dire qu'on pourrait peut-être ne pas avoir le Sénégal à la Coupe du Monde, mais par contre se taper les États-Unis ou des pays comme ça, comme la Jamaïque ou des choses comme ça, d'Amérique du Nord, qui ne jouent pas les barrages avec les équipes d'Amérique du Sud. Ce qui est un peu aberrant en termes de place, je parle.
Oui, la CONCACAF,
ce sera en tout cas normalement le cas lors de la Coupe du Monde 2000, celle d'après 2022, 2026 au fait, où il y aura normalement 8 places qualificatives directes et une place en plus avec un barrage avec des équipes d'Amérique du Sud.
Samy, ton équipe qui t'a marqué là, elle est aussi située sur le continent africain, non ?
Oui, bon, après, évidemment, j'aurais bien parlé de l'Algérie, hein, avec Belmadi, Belmadi, avec ses stats qui sont assez impressionnantes sous son ère, c'est quand même 26 victoires, 9 nuls, une seule défaite pour 90 buts marqués et 26 encaissés. Donc l'Algérie, oui, même si l'Algérie s'est fait peur, on est obligé de le souligner. Mais moi, je voulais malheureusement parler d'une équipe qui est éliminée. Et encore une fois, ils ne participeront pas à la Coupe du Monde. Et encore une fois, ils sont tombés contre qui? Ils sont tombés contre le, comment dire, contre le Cameroun, voilà, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a un réservoir de talent énorme et qui participera pas à la Coupe du Monde quoi, alors que le Canada va y aller quoi.
La Nouvelle-Zélande aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais moi en fait, c'est moi le charme de la Coupe du Monde, c'est quand il y a les équipes évidemment sud-américaines, mais aussi les équipes africaines, parce que voilà, qui ne se souvient pas des parcours heureux ou pas d'ailleurs la plupart du temps de la Côte d'Ivoire, du Ghana surtout en 2010, du Cameroun un peu avant. Enfin, voilà, ça fait partie des nations comme ça qu'on a envie de revoir. Et c'est vrai que là, la Côte d'Ivoire, c'est dommage, c'est triste.
Ouais, mais c'est quand même très, très moyen sur le papier, la Côte d'Ivoire.
Là, actuellement, ouais.
Pour moi, il n'y a pas non plus de scandale.
Non, il n'y a pas de scandale.
Il n'y a pas de scandale. C'est quand même des joueurs qui sont très irréguliers dans leur club à chaque fois.
Ouais. Hein. Oui, Aurier, il y a Aller, Cormet, quand même.
Nicolas Pépé. Bon, Aller, OK, il est fort avec l'Ajax, mais quand il joue en Bundesliga, ce n'était pas non plus un crack. Kessié avec le Milan, OK, il est titulaire. Mais il est quand même assez irrégulier.
Non, quand même.
Donc, pour moi,
mais
c'est
il y a qui en face addition... Il perd contre qui? Mais Gilles, il perd contre qui? Qui c'est qui marque le but? Toko Ekambi, s'il te plaît. Au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le Cameroun aussi, tu vois, sur le papier. Ouais, mais il faut aller jouer en Afrique. Il faut faire les matchs. Il faut se qualifier. Et ils avaient l'équipe pour. Eh ben non, ils vont rater encore. Ils vont rater encore la grande compétition mondiale et ça commence à faire beaucoup.
Ouais, écoute, c'est noté. Contre-performance de la Côte d'Ivoire pour toi, Samy. Et pour toi, Julien, je crois que c'est aussi une contre-perf hein, que tu veux souligner.
Ouais, celle du Portugal. Mais c'est même pas pour parler de la contre-perf, en fait. C'est pour élargir un peu. C'est qu'il faut quand même se rendre compte que le Portugal a probablement l'une des plus belles générations de son histoire actuellement. Pour moi, un peu moins belle que celle des années 2000. Mais quand même, je pense que c'est le coach qui est encore en place grâce à sa victoire en 2016. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux effectifs d'Europe. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à jouer correctement ensemble. Alors, il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de critiques sur Cristiano qui, ce serait peut-être à cause de lui. Bon, Cristiano, de toute façon, à chaque fois que si ça gagne, c'est grâce à lui, si ça perd, c'est à cause de lui. Voilà, moi je trouve, si je vous refais rapidement juste l'équipe, Rui Patricio, Cancelo, Font, Ruben Dias, Nuno Mendes, rien que ça déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est top. Renato Sanchez, Danilo au milieu de terrain, bon, Moutinho, on peut le mettre de côté. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Rota. Franchement, les gars,
c'est peut-être le milieu de terrain qui pose problème, là, du coup, Julien. Renato, Danilo, Moutinho, c'est un vieillard, quelqu'un qui ne court pas, et puis quelqu'un qui n'est pas constant.
Oui, mais enfin, t'as quand même, après, t'as Roi Félix sur le banc, enfin, t'as du monde. Tu peux faire une autre équipe, tu vois. Bernardo Silva, tu peux le redescendre au milieu, laisser jouer à droite. Non, t'as du monde, mais là, ça va pas au niveau du coaching. Voilà, après, ils ont perdu 2-1 contre la Serbie, je crois, la Serbie qui a, je pense qu'il y a un renouveau aussi dans ce pays-là.
Et oui, non, mais la Serbie, c'est très fort aussi. Hein.
C'est très fort.
Vlahovic.
Oui, attends, c'est très fort, mais on dirait là que tu me parles du Brésil ou de l'Allemagne. Non, mais la Serbie.
Non.
La Serbie, ça doit sortir. Tu perds pas contre la Serbie.
Oui, mais attends, la Serbie, on parle quand même avec la Croatie de l'ancienne Yougoslavie, tu vois.
Non, mais c'est la Serbie, c'est.
Mais là, ça commence à devenir très ancien, là.
Non, mais t'as quand même des joueurs qui savent jouer avec le ballon en Serbie.
Ouais, c'est clair.
Vlahovic, Tadic de l'Ajax, SMS de la Lazio, Pavlovic, Milenkovic en défense. Ça reste fort, quand même. Hein. D'autres réactions sur le Portugal, pas spécialement. Moi, j'avais aussi une équipe européenne dont je vais parler. Bon, sans grande surprise. Ça sera l'Angleterre, bien sûr. L'Angleterre qui aligne les cartons. Enfin, c'est même assez impressionnant, je trouve. Je voudrais d'abord parler du sélectionneur, donc Southgate, qui a été largement critiqué avant l'Euro, pendant l'Euro, après l'Euro également. Mais il a quand même fait la finale de l'Euro. Et donc, ce qui lui a permis de sauver sa place à la tête de la sélection anglaise. Il a comme des champs. En fait, Southgate, il s'est un peu déchangisé. C'est un pragmatique C'est pas un grand tacticien, c'est pas quelqu'un, je pense, qui fait un travail de ouf à l'entraînement, mais c'est un pragmatique. Et lui aussi, il a changé de système. Il est passé en 3-5-2. Il avait commencé à le mettre en huitième de finale de l'Euro contre l'Allemagne et ça avait très bien marché. Bon, rappelons que l'Allemagne était largement à bout de souffle. Et là, je trouve que les performances depuis la fin de l'Euro et rappelons-le, défaite à domicile contre l'Italie en finale, mais depuis, c'est quand même du 4-0 contre la Hongrie, du 4-0 contre l'Andorre, encore du 5-0 contre l'Andorre, du 5-0 contre l'Albanie, du 10-0 contre San Marin. Bon, ok, ce sont des équipes assez éclatées, disons-le, mais
Bon, la
sur
Hongrie, ça
ces
va.
éliminatoires, hein?
La Hongrie, on peut dire que ça va quand même. C'est
Oui,
juste
la
qu'ils ont
Hongrie,
manqué
ça
un peu.
va. La Pologne, c'est dur aussi à jouer. L'Albanie, c'est parfois chiant aussi à jouer. Toujours est-il qu'au niveau là, bilan comptable, sur l'ensemble des poules d'élimination pour la Coupe du Monde, c'est le deuxième meilleur bilan. L'Angleterre en termes de points, c'est 26 points. L'Allemagne a fait mieux, 27 points. Le Danemark a fait mieux également. Enfin, qu'on se penche un jour sur cette nation. Mais en tout cas, voilà, parcours parfait
De
pour
toute façon,
l'Angleterre.
Southgate ne s'est jamais caché qu'il s'est, en tout cas pour l'Euro, complètement inspiré de l'équipe de France et de la solidité défensive de l'équipe de France. Donc les Anglais ont toujours été bons, voire très bons, soit en qualif, soit en match amicaux. C'est les champions du monde.
Ouais, c'est vrai, c'est
Mais
vrai.
ils passent des voilà, ils vont arriver premier match, ils vont jouer contre la, quand je dis n'importe quoi, la Colombie, ça va faire match nul. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais Samy, tu mettais les mêmes réserves pendant l'euro et ça fait
Mais ils
finale,
ont
c'est ce
fait
que je veux
quoi pendant
dire.
l'Euro? Oui, ça a fait
Ben, ils ont
finale,
fait
d'accord.
finale pendant
Non,
l'euro, oui.
mais ils ont fait finale en jouant la moitié, 80% des matchs chez eux. Hein, faut le rappeler. On regarde l'Italie. L'Italie,
Oui,
ils sont
mais
en train
ça, c'est comme nous
de.
quand on a gagné en 98, on a gagné en France, on va pas remettre en
Oui, mais
question le
là.
titre parce qu'on a gagné
Et
en
puis ils ont
France.
perdu chez eux.
Et oui, sauf que tu as gagné aux Pays-Bas, tu as gagné au Japon la Coupe des Confédérations, bon, ça reste la Coupe, mais voilà. Tu es allé en, comment dire,
En
oui,
Russie.
d'accord, mais la
en
première fois
Russie,
qu'on
tu
a
as
fait un
gagné.
très bon résultat, c'est en France, et pourtant on n'a jamais remis en question d'avoir été champion du monde. Donc là, l'Angleterre,
Et
ils
ben
ont
ils ont
fait
gagné qu'un
une.
seul trophée, c'est en Angleterre,
Ouais,
déjà.
mais tu les gagnes
C'est
avec
pas
tes
grave.
joueurs.
Non, mais
Non, mais
voilà, mais
tu les
depuis.
gagnes
Non,
avec
mais
tes
là,
joueurs, Samy, les matchs. Il y a des joueurs quand même sur le terrain.
On va pas revenir à il y a 20 ans, mais si on parle là maintenant, ok, ils arrivent, mais c'est important de le souligner quand même qu'ils ont joué 80% des matchs chez eux.
Mais c'est
Ils
pas
ont joué
et
un
ils
match à
ont
l'extérieur, un seul match.
okay.
Donc pour moi, mais oui, mais ça aide de jouer chez soi,
Ah
t'es
bah ça
d'accord,
c'est sûr,
Julie?
c'est indéniable,
Ah
mais
oui.
c'est pour ça qu'il y a des pays organisateurs qui aiment bien organiser chez eux parce qu'ils ont plus de chances de gagner.
Tout à
Bon bah
fait.
là ça faisait partie des pays organisateurs, donc je vois pas pourquoi on devrait remettre ça en question et toujours avoir cet argument-là. Sur
Non,
le
mais non
papier, ils
seulement
ont quand
c'était
même des
pays
super bons
organisateurs, et en
joueurs.
plus ils ont fait le Final Four chez eux. Donc tu vois, donc au final, ils ont joué un seul match à l'extérieur, en Italie. Ok, très bien. Donc voilà, mais pour moi, ça fera rien en Coupe du Monde.
Ah, Samy qui se remet à jouer au jeu des mauvais pronostics, ça sera bien
Non, mais tu me
évidemment
parles des mauvais pronostics
sauvegardé.
comme si ils avaient gagné quelque chose. Ils n'ont rien gagné.
Ah, mais. Ils ont rien gagné, c'est sûr, mais ils ont quand même mis des 4-0, des 10-0, des 5-0. Alors après, c'est sûr que le
C'est
problème de
bien.
l'Angleterre, ça reste que quand il n'y a pas d'attaque en face, bah, eux, comme ils ont une très bonne attaque, ils sont en confiance et ils marquent. Et une fois que l'Angleterre est en confiance,
Et
il n'y a pas de
Julie.
problème. Par contre, on voit bien qu'il y a eu des 1 partout quand même. Donc quand ils prennent des buts, bon, bah, après, ça les remet en question, c'est sûr.
Ah bah oui,
Donc.
mais Julie, regarde, à l'Euro, est-ce que Southgate, il a aligné, on l'a même critiqué pour ça, Rashford, enfin, est-ce qu'il a fait open bar? Non, pas du tout, il a joué
Ah mais
défensif.
justement, alors c'était
Il
une
a laissé
bémol
sur le
que.
banc des Sterling, non, Sterling était titulaire, mais il a laissé sur le banc
Ouais.
Rashford, Grealish, ça a rentré vers la moitié de la compétition, et puis j'en passe, comment il s'appelle, le mec qui joue à Dortmund, là, Sancho, voilà, il y a plein de trucs comme ça.
Ouais, bon, il joue à Manchester maintenant. Mais alors, juste, enfin, c'était justement le bémol que je voulais faire sur cette équipe, qui, selon moi, a un réservoir de joueurs complètement incroyable. Je pense que sur le papier, encore une fois, Coupe du Monde, je vais faire le même pronostic que pour l'Euro, c'est-à-dire que normalement, c'est dernier carré sur le papier, parce que génération exceptionnelle, parce que des joueurs qui jouent tous dans des top clubs avec une expérience en Ligue des Champions. Mais alors, le bémol, c'est qu'au niveau des compositions d'équipe, bah, Southgate, des fois, il nous fait du Deschamps, des fois, voire pire. Enfin, quand même, Deschamps, on peut le respecter. Mais Southgate, des fois, c'est du grand n'importe quoi. Vous savez qu'il y a abondance de latéraux droits en Angleterre. Eh bien, contre l'Andorre, il y a quelques matchs, il nous a sorti une composition avec Trippier à gauche, Alexander-Arnold à droite, et puis Reece James au milieu de terrain. Donc, dinguerie, je pense que si Walker était là, il aurait fait jouer quatre latéraux droits de métier en défense. Donc, il y a pour moi encore un problème en termes de notion tactique chez ce coach, mais l'association Calvin Phillips-Bellingham, je pense que c'est très prometteur au milieu de terrain. Voilà, c'est compliqué hein, de satisfaire tout le monde, parce que devant, tu as Harry Kane qui est titulaire contestable, mais après, qui te choisit entre Foden, Sancho, Rashford, Mason Mount, Greenwood qui fait des rentrées intéressantes, Abraham qui redeviendra titulaire s'il reste performant à la Roma, ça reste quand même une sacrée team.
Ouais, non, mais c'est vrai que sur le papier, tu as raison, Gilles. Après, juste pour revenir sur ce que disait Samy, ça répond en même temps à ce que tu dis. C'est vrai que voilà, l'Angleterre, ils ont fait demi-finale à la Coupe du Monde 2018, il ne faut pas l'oublier. Leur parcours est plutôt simple. Hein. Il y a la Suède et il y a je ne sais plus quelle autre équipe plutôt simple aussi, abordable en tout cas. Et la finale de l'Euro, dans leur parcours, il y a le Danemark et l'Ukraine.
Alors, okay, en 2018, ils ont failli se faire sortir par la Colombie au tir au but.
Voilà, donc on pourrait se dire qu'ils sont dans un bon cycle, mais en fait, il faut aussi regarder le parcours, les gars. Et il n'y a rien d'extraordinaire. Et ce que toi, tu vois sur le papier, Gilles, et je pense que tout le monde le voit, on ne le voit pas en match.
Ouais, on ne le voit pas en match, mais tu peux te dire aussi que c'est une équipe qui n'a pas encore atteint son haut potentiel. Et que ça fait peur. Enfin, si Southgate devient un bon coach, bah, sur le terrain, ça produit des étincelles. Alors que enfin, c'est déjà pour moi des performances assez remarquables que de battre les équipes faibles ou moyennes d'une poule, 4-0, 5-0, 5-0, 10-0,
ouais.
Voilà.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, mention spéciale pour Harry Kane, parce que je crois que cette année, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est 16 buts hein, quand même, avec l'Angleterre, rien que cette année.
Donc on va suivre ça de près. Messieurs, dames, je voudrais qu'on fasse un petit peu de foot fiction maintenant, puisque le football international est sur le point d'être bouleversé ces prochaines années, puisque la FIFA avance à marche forcée ces derniers mois pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. Aux grandes dames des passionnés que vous êtes et que nous sommes, mais en même temps, chaque trêve internationale comporte aussi, il faut le dire, bah, son lot de polémiques. En tout cas, quelque chose doit changer, mais quoi ? Quel futur pour le football des nations? Donc, on va faire du foot-fiction, messieurs, dames. Pour ma part, bon, quand tu regardes le nombre de coupures, le nombre de trêves internationales sur une année, même dans une année où il y a une compétition comme l'Euro en 2021, bah, il y a quand même 5 trêves internationales. Moi, ça me paraît… En fait, pour moi, le problème, c'est le calendrier international. 5 trêves dans l'année, c'est beaucoup. Moi, je serais plutôt partisan pour qu'on ait une série de 5, 6, voire 8 matchs d'un seul coup sur une période concentrée de l'année et rassembler, par exemple, les matchs internationaux de novembre jusqu'à décembre ou de janvier jusqu'à février. Je sais pas, à chaque fois, c'est un feuilleton qui n'en finit plus. On fait 2 matchs en octobre et puis après on revient du championnat, on fait 2 matchs en novembre, on revient du championnat, après c'est la Ligue des Nations, on ne comprend pas à quoi sert la coupe, on la gagne quand même, on est content. Donc moi je pense que la priorité, moi je suis contre la Coupe du Monde tous les 2 ans, mais pour moi la priorité c'est il faut réformer le calendrier, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et moi je pense qu'il faut concentrer les matchs internationaux sur quelques semaines, un mois et demi dans l'année. On a une période sacrée, une période qu'on déclare sacrée sur le plan international. Chaque club envoie ses joueurs et puis on regarde les matchs. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Si vous avez d'autres idées, hein, n'hésitez pas.
Non, moi, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça me paraît fou, sachant qu'on a déjà rajouté la Ligue des Nations. On en a déjà parlé dans cette émission de la surcharge de matchs et voilà, d'un calendrier très dense dans l'année. Donc je suis d'accord avec toi que là, on ne comprend pas toujours, ça casse le rythme. Il y a des matchs en octobre, des matchs en novembre, et puis entre-temps, ils reprennent les championnats locaux. Donc oui, effectivement, moi, je trouve que du coup, il y a un risque de blessure. D'ailleurs, on voit de plus en plus de blessures. Par exemple, là, Romelu Lukaku est blessé, mais je parle de lui parce que c'est le dernier que j'ai en tête. Donc non, une Coupe du Monde tous les 4 ans, pour moi, c'est important, surtout qu'on sait aussi que ça prend énormément de temps de soit construire des stades, soit de faire les matchs. Enfin, voilà, là, le scandale au Qatar, on n'en parle pas, mais c'est sur le sang d'humain, en fait, que cette Coupe du Monde, elle va se jouer. Donc, ouais, économiquement...
Oula, 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 polémique.
Bah non, mais c'est vrai, hein, c'est plusieurs milliers de morts quand même.
Pour l'instant, il n'y a que la Norvège et le Danemark qui font des manifestations contre ça. Ça se joue, c'est de l'hypocrisie.
Ah non, mais il n'y a pas de problème. Mais je dis pas qu'on va tous regarder la Coupe du Monde comme on a regardé les JO en Russie, comme on regarde toutes les Coupes du Monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça reste que si c'est tous les 2 ans, ça veut dire que c'est... économiquement parlant, enfin voilà, c'est quand même...
Bien sûr, et surtout, à signaler, que ça part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'ils veulent la faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, rappelons que la Coupe du Monde doit passer à 48 équipes, si je ne dis pas de bêtises, enfin voilà, tous les 2 ans, mais peut-être que finalement, ça va ajouter trop de matchs au calendrier, donc on va supprimer toutes les trêves internationales, et on va faire... par exemple, certaines équipes une année en 2022, d'autres équipes en 2024, etc., etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en plus de ça, c'est soutenu par des acteurs du foot comme Arsène Wenger, comme Ronaldo, des mecs qui, avec l'argent que la FIFA leur donne, eh ben, sont prêts à retourner tout.
Et les diffuseurs sur les antennes sur lesquelles ils travaillent aussi.
Non, mais là, pour le coup, si on parle d'Arsène Wenger, tu vois, c'est la FIFA qui le paye pour être cet ambassadeur et pour pouvoir donner
Je crois qu'il travaille aussi sur une télé anglaise qui serait l'un des diffuseurs.
Ouais, donc il y a des conflits d'intérêts, en tout cas. Mais là, quand on voit que la CAN, bah, de toute façon, c'est clair que c'est ça, même la Ligue des Nations et la Ligue qui voulait faire avec les grands clubs. Enfin, je veux dire, là, on est dans le foot business. C'est pour ça que c'est le risque avec cette Coupe du Monde tous les 2 ans. Et ça veut dire quoi? Que l'année où il n'y a pas de Coupe du Monde, il y a une Coupe d'Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand championnat international, enfin, une grande compétition internationale tous les étés. En fait, voire tous les hivers, puisqu'on ne saura pas si c'est au Qatar ou dans les Émirats, parce qu'ils vont...
Il
y en a d'autres qui vont s'y mettre demain. En fait, ça va complètement casser le rythme. Enfin, les joueurs, ils vont plus en pouvoir, quoi. C'est impossible de faire ça. Déjà, on est en train de voir que peut-être la CAN va pas se jouer parce qu'ils se rendent compte que justement, il y a une trop forte intensité dans le nombre de matchs.
Et aussi parce que, les pays n'arrivent pas à être prêts. Maintenant, comment tu vas trouver un organisateur prêt pour enchaîner, pour pouvoir passer d'un continent européen à tu la joues en Afrique, à tu la joues en Asie. Enfin, c'est très compliqué.
En plus, c'est ça, il faut multiplier le nombre de pays accueillants, de pays hôtes, sauf que en fait, on se rend bien compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Et que là, même le Qatar est en train de construire des stades depuis 4 ans, et c'est là où je dis que ça se fait sur le sang de milliers d'Indiens et Pakistanais notamment. Ils sont en train de construire des musées pour inventer aussi des trucs à visiter et occuper les visiteurs. Enfin, c'est aberrant en fait ce qui se passe au Qatar quand même. Donc ça veut dire quoi? Que demain, il va falloir beaucoup de pays accueillants, parce que sinon on va encore se retrouver à faire les pays d'Europe, la Russie, peut-être les États-Unis encore. Je veux dire, il n'y a pas de dispositif en Afrique pour pouvoir faire des stades comme ça. Il n'y a pas de dispositif en Amérique du Sud pour faire des stades. L'Asie, c'est pareil. Et puis, il y a des continents où il faut forcément le faire l'hiver parce que, au niveau climatique, c'est impossible de l'organiser en juin. Donc, j'ai du mal à le conceptualiser.
Ah ouais, c'est très. Ça a l'air là, Julie, tu m'as réouvert les yeux sur la question. Ça a l'air de partir dans tous les sens. Et le business, ses limites, hein, malheureusement, hein, surtout dans le sport. La consommation de football est de plus en plus compliquée, au détriment du football, d'autres sports sont plutôt mis en avant. Je parle notamment de la Formule 1, par exemple, qui a su se réinventer. Là, tu mets une Coupe du Monde tous les 2 ans, il n'y a plus cet aspect, comment dire, rare. Et on le voit sur, on le voit en plus, hein, les supporters des clubs, ben, ils en ont marre de ces trêves internationales. Ils attendent avec impatience que reviennent, que reprennent la, que ces trêves internationales s'arrêtent pour que leur club puisse rejouer, en fait.
La sélection, ça doit rester une fête.
Ouais, mais bon, le Wenger, bon, vous êtes dur avec lui, mais à juste titre, je dirais, mais son constat, il est quand même assez bon. Ce sont ses propositions qui sont scandaleuses à Wenger. Son constat, c'est de dire que le calendrier international est illisible, que comme tu le dis, Samy, quand il y a des matchs internationaux, bah, la plupart du temps, ils n'ont pas vraiment de saveur. Les joueurs se blessent, les clubs font la gueule. Donc, il y a quand même quelque chose à changer.
C'est pas ce qu'il dit. Non, mais c'est pas ce qu'il dit.
Wenger, il dit tout le contraire. Le problème du calendrier international.
Il l'a pointé toute sa carrière. Non, non. Il l'a pointé toute sa carrière. Et là, il défend le fait qu'il faut jouer plus de matchs internationaux.
Donc, lui, il dit quelque chose doit changer. Et ensuite, c'est le second volet de son intervention qui est frustrant, où il nous vend sa Coupe du Monde tous les 2 ans parce qu'il est payé pour dire ça.
Non,
mais ça, c'est le, le second volet de son intervention. Moi, je parle juste du constat.
Pour moi, le constat, il l'a toujours eu. Le problème, c'est quelle solution il propose. Eh ben, en échange de... Enfin, franchement, je suis déçu de Wenger. En échange d'une commission par la FIFA, eh ben, il propose comme solution au constat qu'il fait depuis des années la pire des solutions, c'est-à-dire ajouter des matchs.
Non, mais là, je pense que mettre le débat sur Wenger, c'est le stériliser dans le sens où bon, on a très bien compris que lui était payé et qu'effectivement, c'était le premier entraîneur à dire qu'il était mécontent quand il était privé de Thierry Henry quand il jouait en équipe de France. Donc lui, il sert juste ses intérêts qui ne sont plus les mêmes qu'avant, parce qu'avant il était entraîneur de club et maintenant il est à la FIFA, quoi. Donc je pense par contre qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure Gilles, il doit y avoir une réforme dans le calendrier. Ça, c'est indéniable qu'il faut plus concentrer les matchs, mais qui dit plus concentrer les matchs ne dit pas rajouter des compétitions, surtout que déjà on est en train de voir que la Ligue des Nations fait un gros flop. Autant que la Coupe de la Ligue a fait un gros flop en France quand elle a été mise en place. Voilà, juste si on se rend compte de ça, bah, effectivement, on réforme, on fait autrement. Mais c'est comme si on commençait à dire qu'on allait mettre des Jeux Olympiques tous les 2 ans. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait.
À la différence que pour les Jeux Olympiques, comment dire, je pense que ce qui fait plaisir au CIO, c'est qu'il y ait à la fois les Jeux Olympiques d'hiver et à la fois les Jeux Olympiques d'été. Tu vois, donc c'est une entrée d'argent tous les deux ans pour le Comité international olympique.
Oui, d'accord, mais il y a une entrée d'argent aussi dans le football puisque il y a les coupes, il y a les champions.
Ouais, mais la FIFA, elle gère
l'Euro et la Coupe du Monde.
Oui, mais la FIFA, elle gère réellement que la Coupe du Monde. Donc ils ont essayé de mettre en place une Coupe du Monde des clubs qui a fait un peu flop, qui devait normalement se jouer tous les étés avec une vingtaine d'équipes. Et donc là, ils essayent de faire, et ça a fait flop, ils essayent de faire passer en force leur idée d'une Coupe du Monde de sélection tous les 2 ans. Mais je sais, franchement, ça a l'air de. Ils ont l'air d'être très attachés à cette idée et de vouloir le faire à tout prix. Et franchement, c'est pas rassurant.
On va bientôt vivre dans un monde avec une Super Ligue et deux Coupes du Monde. Enfin, une Coupe du Monde tous les 2 ans.
Et une Super Ligue internationale. Bon, bah écoutez, merci messieurs, dames. On était complet là sur ce football international. On referme cette page football fiction pour peut-être la rouvrir d'ici quelques semaines si les choses changent au niveau de la FIFA. Merci Samy, Julien et Julie.
Merci à tous.
Merci à toi, merci à vous.
On referme ce podcast. Retrouvez-nous chaque semaine dans Parlons Sport en audio sur les réseaux sociaux et en direct à la radio.
Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.